France Inter.
Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. Les syndicats dénoncent l'insécurité grandissante, mais la préfecture de police se veut rassurante. À Marseille, l'entreprise Orange a décidé de fermer temporairement ses locaux situés dans un quartier sensible à cause des bagarres et de la proximité d'un point de deal, décision inédite. On se rendra sur place au début de ce journal. On entendra aussi Emmanuel Macron qui se dit favorable à l'interdiction du portable au lycée, comme c'est déjà le cas dans les collèges. Faut-il nationaliser ArcelorMittal? Oui, disent les députés. Non, répond le gouvernement. On va demander à notre invité ce qu'il en pense. Pascal Ragier est professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de la sidérurgie. On ira aussi à Jérusalem. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Céline.
Les Nations Unies réclament l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'une vidéo montrant des soldats israéliens tirés sur des Palestiniens qui semblaient se rendre.
Oui, une bavure présumée, ça se passe à Jénine, c'est au nord de la Cisjordanie occupée où l'armée de l'État hébreu mène une opération. On est très loin en Israël de l'indignation qu'un tel événement aurait provoqué il y a quelques années. On vous expliquera pourquoi.
Toutes les précisions avec vous dans les prochaines minutes, Thibault. Il était à la terrasse d'un café lorsqu'il a été interpellé. L'un des détenus évadés de la prison de Dijon a été retrouvé par la police, on y revient. On parlera aussi du Black Friday puisque c'est aujourd'hui. Certains se précipitent dans les magasins mais certains refusent. Cette opération promo, ils veulent acheter français, écoutez.
Parfois on a l'impression que parce que c'est Made in France, il faut forcément que ce soit cher, mais là dans cette boutique, il y a différentes marques, il y en a certaines, il n'y a pas une différence de prix énorme non plus par rapport à d'autres marques, disons de qualité équivalente.
Reportage dans une boutique consacrée au Made in France à suivre. Et puis le musée de Bayonne vient de rouvrir ses portes après 14 années de travaux. Et on peut y découvrir de nombreuses œuvres prêtées par le musée du Louvre. On va parler de ce partenariat inédit avec nos invités et vos questions à 13h30, 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Vous avez le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
C'est une ville où le climat s'est alourdi depuis quelques semaines, depuis l'assassinat de Mehdi Kessassi et depuis la marche blanche et l'appel de ses proches à lutter contre le narcotrafic. Et c'est dans ce contexte que l'entreprise Orange a pris une décision inédite, une décision lourde de symboles. Les locaux marseillais de l'opérateur, situés dans le quartier sensible de Saint-Mauron, vont rester fermés pendant 2 semaines. Les 1000 salariés appelés à télétravailler à la demande des syndicats qui avaient dénoncé des bagarres autour du site, assurant que des coups de feu aussi avaient été entendus. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
En direct de Marseille, où vous êtes la correspondante de France Inter. Vous êtes allée à la rencontre de ces salariés qui ont été confinés dans leurs locaux 3 fois cette semaine.
Oui, plusieurs incidents dans la rue juste en face du site d'Orange ont poussé les agents de sécurité à fermer le bâtiment, à confiner les salariés pendant 1 demi-heure, 3 jours de suite cette semaine, explique Laurent Bédrossian, délégué CFE-CGC, syndicat majoritaire chez Orange.
Mardi, c'est une bande qui a poursuivi un gars avec un club de golf pour lui fracasser la tête. Mercredi, c'était deux personnes, une des bandes qui se battaient. Et hier, jeudi, c'est monté encore d'un cran, c'était là des tirs d'armes à feu, en fait.
Des tirs entendus par les salariés, mais qui n'ont pas pu être confirmés par la police qui s'est rendue sur place. Si depuis plusieurs années déjà, les syndicats d'Orange dénoncent le climat dans le quartier très pauvre de Saint-Mauron, la situation ne fait qu'empirer, disent-ils. Des tags recouvrent désormais les grilles du bâtiment d'Orange pour indiquer la présence d'un point de deal ouvert 24 heures sur 24 dans la cité voisine de Félix Piat. Nadège Pouet de la CFE-CGC.
Je n'ai jamais connu ça, même avec des périodes très tendues, même si on sait que ce n'est pas un quartier très sécur. Donc ça devient vraiment anxiogène, compliqué. Donc là, aujourd'hui, on demande à déménager et on n'a plus envie d'y aller.
La préfecture de police indique avoir renforcé les patrouilles et explique que les premières vérifications ne permettent pas pour l'instant de dire que le site d'Orange serait au cœur d'affrontements entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue.
Merci pour toutes ces précisions Mathilde Vinceneux. Depuis Marseille pour France Inter, lutter contre les effets néfastes des réseaux sociaux sur nos adolescents, voilà une mission qui occupe beaucoup le président de la République depuis quelques semaines. Emmanuel Macron poursuit son tour de France consacré au risque du numérique. Il est aujourd'hui à Mirecourt, dans les Vosges, où il s'est dit il y a quelques minutes favorable, écoutez, à l'interdiction du portable au lycée.
Et à partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour vraiment aller au bout de cette démarche et dire c'est pas le lieu où vous devez faire ça, c'est le lieu où vous apprenez et puis c'est le lieu où vous échangez. Parce que sinon, je vous défie d'aller en cours de récréation dans un lycée à la seconde, vous pouvez avoir des jeunes qui sont la tête comme ça, à 2 mètres. Il n'y a plus aucune interaction, il n'y a plus d'humanité. Et donc, je pense que c'est à la fois prévention, accompagnement et interdiction. Et on va le faire au niveau national.
Emmanuel Macron, il y a quelques minutes, c'était lors d'un échange avec les lecteurs de la presse quotidienne régionale dans les Vosges. On vous parlait hier dans le 13-14 de ces détenus qui se sont évadés de la maison d'arrêt de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule. Eh bien, l'un d'eux a été retrouvé ce matin. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Interpellé dans un village de Saône-et-Loire où il prenait tout simplement un café.
Oui, on est à Bay, environ 70 km de Dijon, un peu plus d'une heure de route. L'homme discute avec le gérant du bar. Il raconte qu'il est du coin, qu'il rénove une maison avant d'être interpellé par des policiers de la BRI installés à une table voisine. Âgé de 32 ans, l'homme était en détention provisoire pour des violences conjugales. Hier, il a laissé un mot dans sa cellule pour expliquer que l'incarcération lui semblait déjà trop longue. Mais c'est l'autre détenu en cavale qui est considéré comme le plus dangereux. Un jeune homme de 19 ans, déjà condamné à une dizaine de reprises, lui est soupçonné d'avoir participé à un règlement de compte sur fond de narcotrafic à Montbéliard. Quant aux circonstances de leur évasion à l'ancienne, pour le procureur de Dijon, l'hypothèse la plus probable, c'est que les lames aient été livrées par drone, par la fenêtre de leur cellule. Les deux hommes ont ensuite utilisé leur drap pour escalader un mur couvert de lames de rasoir. Arrivés dans l'enceinte de la vétuste maison d'arrêt, ils sont sortis par le porche qui s'ouvre le matin pour laisser passer les personnels.
Merci Sarah Guibaudot du service police-justice de France Inter. Le gouvernement doit respecter le vote historique de l'Assemblée nationale. C'est Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui s'exprime ainsi ce matin alors que les députés ont approuvé tard hier soir une loi visant à nationaliser ArcelorMittal pour sauver la sidérurgie française. Le gouvernement lui dénonce par la voix du ministre de l'économie Roland Lescure une réponse populiste à un problème structurel. Alors qu'en est-il? L'État peut-il, l'État doit-il sauver les hauts fourneaux? Vous allez nous livrer votre éclairage. Bonjour Pascal Ragy.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, spécialiste de la sidérurgie. Alors d'abord, est-ce que c'est faisable? J'allais dire presque en termes administratifs, est-ce qu'on peut détacher les sites français pour les nationaliser?
Oui, ça c'est toujours faisable. Du point de vue administratif et même juridique, on peut trouver des moyens de réaliser cette nationalisation. En revanche, sur le plan économique, c'est un peu plus compliqué et... d'obstacles pour qu'une entreprise qui soit, on va dire, nationalisée de cette façon-là continue à avoir une production, à être intégrée dans un réseau. Et là, c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce que ça coûterait cher? Parce que la CGT dit finalement ça ne coûterait pas plus cher que de nourrir l'entreprise d'aide publique pendant des années.
Je crois que ça, c'est vraiment une fausse question. Alors, parce que une entreprise a un coût. Si l'État rachète une entreprise, c'est à mon sens un investissement. Et l'idée, c'est d'acheter à un certain prix. Alors, on parle de 3 milliards d'euros. Je ne suis pas sûr de ce chiffre. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les médias. Mais de toute manière, c'est un investissement. En plus, ce qu'il faut quand même dire à vos auditeurs, c'est que la sidérurgie, ce n'est pas un food truck. Et c'est un investissement très important avec des milliers d'emplois derrière. Donc, s'il doit y avoir, je ne sais pas s'il va y en avoir une après le vote du Sénat, mais s'il doit y avoir une nationalisation, c'est quelque chose, c'est un processus de très long terme. Ça ne se fait pas, enfin le changement ne va pas arriver très rapidement.
C'est quoi les obstacles, les autres obstacles? On a compris la question financière, il y en a d'autres.
Alors l'obstacle majeur à mon avis, c'est le fait que les installations d'ArcelorMittal en France sont encastrées à l'intérieur d'une entreprise qui est mondialisée. Alors là, je ne sais pas comment travailler en amont et en aval par rapport à la production sidérurgique. Et autre obstacle qui n'en est peut-être pas un, je ne sais pas, c'est le positionnement de l'industrie sidérurgique française au niveau européen.
Oui, parce que, et c'est ce que dit le gouvernement, et le PDG d'ArcelorMittal aussi, dit ça ne servirait à rien parce que ce serait une action isolée finalement. Il faudrait imaginer une réponse à l'échelle européenne.
Oui, d'autant plus que, et je l'ai déjà dit, à l'échelle européenne, ce qu'il faut aussi, c'est protéger les industries européennes. Et on a l'impression qu'à Bruxelles, on n'a pas forcément conscience de ça. Et malgré toute la force du lobby des industriels de la sidérurgie, il y a des décideurs au niveau européen qui continuent à ne pas croire en la protection des frontières européennes, ce qui est quand même dommage.
Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de mieux protéger face aux importations chinoises, à la concurrence, aux défis du secteur de manière plus générale?
C'est ça, c'est mieux protéger vis-à-vis des importations chinoises, mieux vérifier que ce qui est produit à l'extérieur de l'Europe est bien produit selon des normes actuelles du point de vue de la pollution. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose d'intéressant. ArcelorMittal réfléchit à ça actuellement, à cette décarbonation. Donc si on protège l'acier européen, il faut qu'on soit à égalité avec les autres aciers qui sont produits dans le monde.
Parce que la France insoumise qui a porté cette proposition de loi ne cachait pas que c'était un défi, évidemment, mais est-ce qu'il y a des alternatives finalement à la nationalisation ?
Alors, je vais être très pessimiste d'abord et optimiste ensuite. Alors, si je suis très pessimiste, je peux même dire que la nationalisation n'empêchera pas la restructuration, voire les fermetures de sites. On l'a déjà vu sur l'histoire française. Donc ça, c'est une première chose et ce n'est pas une solution miracle. Et puis, de toute façon, les gens qui perdent leur emploi, on peut prévoir un accompagnement social qui n'a rien à voir avec la production sidérurgique elle-même. Donc ça, c'est si vraiment ça se passe mal, une nationalisation n'empêchera pas que ça continue de mal se passer. En revanche, et là, c'est la partie optimiste de ma réponse, s'il y a un plan stratégique, un plan lié aux éléments de réindustrialisation, etc., avec une prise de contrôle par l'État, ça peut être intéressant. Mais de toute manière, c'est ce que je disais à l'instant, ça ne peut pas être fait rapidement. Et la nationalisation ne sera pas une solution miracle avec des effets immédiats.
Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise, Pascal Ragy. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Et puis, je précise que cette proposition de loi de la France insoumise doit maintenant passer par le Sénat, qui vraisemblablement sera moins séduit par l'idée d'une nationalisation d'ArcelorMittal. Il faut limiter la consommation de soda, de snacks sucrés, salés, de charcuteries industrielles, bref, éviter de manger trop d'aliments ultra transformés. Voilà ce que vous ne lirez pas dans les recommandations officielles du gouvernement. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat va être dévoilée cet après-midi, texte qui doit poser les bases d'un modèle alimentaire plus juste et plus soutenable. Mais ce qui manque dans ce document est donc très révélateur, des frictions et des tentatives de lobbying. On va en parler avec vous, Marie Dupin de la cellule investigation Célia Kilré du service santé de France Inter. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Marie, je me tourne d'abord vers vous puisque c'est vous qui nous révéliez ce matin la disparition des aliments ultra transformés de ce texte. Et ça a été le résultat d'un long bras de fer entre les différents ministères en charge de ce dossier.
Ah oui, hein, les discussions ont été très tendues, hein, jusque dans la dernière ligne droite. Le ministère de la Santé et de la Transition écologique voulait que la limitation des produits ultra transformés soit présente dans le texte. Le ministère de l'Agriculture s'y opposait. Et finalement, c'est Matignon qui a tranché en début de semaine. La version transmise par le cabinet du Premier ministre Sébastien Lecornu a été expurgée de toute référence à cette limitation de la consommation des produits ultra transformés. Une décision d'autant plus surprenante que dans le même temps, une quarantaine de scientifiques du monde entier publiaient un constat alarmant. Selon eux, les preuves sont là, les produits ultra transformés sont associés à des risques accrus d'obésité, de diabète, de dépression. C'est un problème majeur de santé publique. Et bien, malgré cette alerte, la mention a été supprimée par Matignon. Il faut dire, Céline, que l'ANIA, le principal lobby de l'industrie alimentaire, faisait pression depuis des mois. Ce lobby récuse le concept même d'aliments ultra transformés. Début 2024, lors d'une rencontre à l'Élysée, ce lobby avait exprimé ses inquiétudes face à un qualificatif jugé injuste. L'ANIA, dont le directeur de la communication a quitté son poste il y a quelques jours. La semaine dernière, il vient d'être nommé au journal officiel conseiller presse du Premier ministre Sébastien Lecornu.
Alors, on ne parle pas donc de produits ultra transformés dans ce texte, mais qu'est-ce qu'on y trouve finalement, Célia Kilré, que disent les recommandations du gouvernement?
Surtout de grands principes, hein, issus de 4000 contributions. L'objectif est une alimentation saine, durable, locale, qui permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le détail, il est conseillé de manger plus de légumes, limiter la viande, la charcuterie, le sucre aussi, pour réduire les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, réduire le gaspillage aussi de moitié. Voilà un autre objectif qui existait déjà par ailleurs. Ça passe par un accompagnement des cantines et une réglementation plus stricte de la qualité des repas servis dans les crèches et les EHPAD. Ça, c'est une nouveauté.
Et tout cela avec quels moyens, quelles obligations?
C'est bien le problème. Il n'y a pas d'objectif contraignant sur la viande, rien sur les aliments ultra-transformés. sera transformé, on le disait, rien sur l'alcool. Aucune interdiction de la pub à destination des enfants pour les produits trop gras, salés, trop sucrés. Il y a juste une incitation à moins exposer les enfants. Pas de mesure fiscale non plus ou budgétaire pour rendre les produits sains ou bio moins chers ou plus accessibles aux personnes modestes. Tout cela a été détricoté. On est loin de la demande initiale formulée par les citoyens de la Convention pour le climat, loin des demandes des médecins ou des associations aussi, qui ont pourtant été auditionnées pendant plusieurs mois.
Merci Célia Kilré, merci Marie Dupin. Votre enquête à retrouver avec tous ces détails sur l'appli Radio France. C'est un animal qui divise, mais c'est un chiffre qui reste stable. La population des loups n'a pas beaucoup évolué en France au cours de l'année 2025. Ils sont estimés à 1082, soit 69 de plus, très précisément qu'il y a un an, selon l'étude annuelle de l'Office français de la biodiversité.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Des soldats israéliens tirant à bout portant sur deux Palestiniens qui visiblement étaient en train de se rendre. La scène a été filmée hier à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes mènent une opération d'ampleur. Voilà qui constitue, selon l'autorité palestinienne, un crime de guerre documenté et complet. Une apparente exécution sommaire, disent les Nations Unies qui réclament une enquête. Mais le ton est tout autre côté israélien. Le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale apportant son soutien total aux soldats qui ont tiré. Thibault Lefèvre, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Tout cela sans doute aurait fait la une chez vous il y a quelques années, mais le 7 octobre et la guerre à Gaza sont passés par là. Et finalement, l'affaire Thibault ne suscite pas beaucoup de réactions.
Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette bavure présumée est très loin de faire la une des journaux en Israël. Il n'y a que la gauche humaniste et des groupes d'activistes clairement en perte de vitesse dans une société très à droite depuis le massacre du 7 octobre qui s'offusque encore des violences de l'armée et de la police. C'est le cas notamment de l'association Breaking the Silence. Elle est composée d'anciens soldats comme Nada Weiman.
Ça ressemble à une exécution. La déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, c'est de la bêtise et du mensonge. Si vous regardez le soldat à gauche de la vidéo, il ne bouge pas quand l'autre militaire situé à droite avec son casque sur la tête tire et tue les deux Palestiniens.
L'armée et la police aux frontières ont déclaré dans un communiqué conjoint que les deux victimes étaient affiliées à un réseau terroriste. Vous l'avez dit, le ministre de la Sécurité nationale, le suprémaciste Itamar Ben-Gvir, a salué ces meurtres présumés. Et pour Nada Weiman, qui a lui aussi combattu en Cisjordanie occupée dans les forces spéciales, c'est évidemment au plus haut niveau de l'État qu'est cultivé ce sentiment d'impunité.
Ce n'est pas un sentiment d'impunité, ce sont des faits que l'on constate sur le terrain. Vous pouvez le constater quand un soldat israélien tue des civils, il ne se passe rien. L'armée va dire qu'elle enquête. Dans la plupart des cas, les enquêteurs ne vont pas récupérer de preuves médico-légales. Ils ne vont pas non plus interroger d'autres soldats qui étaient sur place. Il n'y a donc pas de preuves. En tant que soldat, vous savez donc que vous bénéficiez d'une impunité.
Et donc, sans surprise, une enquête du ministère de la Justice est en cours pour un événement que l'armée israélienne a qualifié d'incident.
Merci Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Et puis toujours au Proche-Orient, le gouvernement syrien dénonce aujourd'hui un crime de guerre après l'opération menée par l'armée israélienne la nuit dernière dans le sud de la Syrie. Elle a fait 13 morts, dont des femmes et des enfants. Selon les médias syriens, l'armée israélienne assure avoir visé des terroristes d'un groupe islamiste qui préparait, je cite, des attaques contre des civils israéliens. Ils ont lutté pendant 48 heures contre les flammes. Les pompiers ont réussi à éteindre le gigantesque incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong. Vient maintenant le temps du bilan terrible. Il y a au moins 128 morts et des disparus. Le temps de l'enquête aussi. Selon le gouvernement, le feu a pris sur des filets de protection installés autour des immeubles le temps des travaux. Ils se sont propagés ensuite grâce aux échafaudages en bambou et aux panneaux en mousse. Et pendant ce temps, la solidarité s'organise pour venir en aide aux sinistré. Sébastien Berriot, vous êtes sur place pour France Inter.
À quelques 200 mètres des gratte-ciel ravagés par l'incendie, le petit centre commercial du quartier a été transformé en un vaste camp humanitaire. Sur le parvis, plusieurs centaines de bénévoles venus de tout le territoire se sont installés tôt ce matin pour apporter une aide aux sinistrés, distribution de vêtements, denrées alimentaires et tout le matériel nécessaire au quotidien. Vi fait partie des bénévoles.
Les Hongkongais aident les Hongkongais, c'est aussi simple que cela. En regardant les informations à la télévision, j'ai ressenti une immense tristesse, alors je suis venu ici pour donner un coup de main. J'ai apporté des sous-vêtements pour femmes et des articles du quotidien.
Dans la plupart des cas, les sinistrés ont tout perdu. Au premier étage du centre commercial, un dortoir a été improvisé, des matelas installés et parfois des cartons pour permettre aux résidents de dormir à l'intérieur, comme Weiyang, 48 ans.
Mon appartement a été complètement détruit, je n'ai plus rien. Je suis actuellement hébergé dans ce lieu temporaire, on est environ 200. On reçoit des repas gratuits et des médicaments. Et nous dormons par terre.
Juste derrière, à l'abri des regards, la police accueille les familles de disparus dans une tente pour la reconnaissance des corps. 80 d'entre eux, totalement calcinés, n'ont pas pu être identifiés.
Reportage à Hong Kong, signé Sébastien Berriot. Et puis non loin de là, les inondations font de nombreuses victimes en Thaïlande. 145 morts selon le nouveau bilan et au Sri Lanka, où l'on recense 156 victimes en raison des fortes précipitations et des glissements de terrain. Le changement climatique accentue selon les scientifiques les phénomènes extrêmes durant la saison de la mousson. C'est une visite qui rompt avec la stratégie mise en œuvre par les 27 depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Premier ministre hongrois est à Moscou. Aujourd'hui, Viktor Orban est venu discuter énergie avec Vladimir Poutine. La Hongrie, dit-il, continuera à acheter des hydrocarbures à la Russie. Le dirigeant russe salue en retour la position équilibrée, dit-il, de la Hongrie sur le sujet. Et puis, autre déplacement dans l'actualité de ce jour, celui de Léon XIV, toujours en Turquie, après le volet politique hier à Ankara, où le pape a appelé les Turcs à jouer un rôle de stabilisateur dans la région. Voilà le volet religieux. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Iznik, une ville qui s'appelait autrefois Nicée, et où va se tenir dans les prochaines minutes une cérémonie symboliquement très importante.
Avec les montagnes en fond de tableau face à ce lac d'Isnik, où affleurent presque les restes d'une basilique du IVe siècle, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts d'imagination pour se replonger dans ce concile de Nicée, il y a 1700 ans, dont le pape va célébrer l'anniversaire dans quelques minutes. De ce concile est sorti le credo, la foi commune avec les orthodoxes et une partie des protestants. Avec le patriarche de Constantinople et une série de dignitaires orthodoxes, Léon XIV va redire ce que ces confessions ont de commun au-delà des divisions. Un geste d'unité pensé comme un exemple bien au-delà du christianisme dans un monde qui se déchire. Déchirure qui continue, le patriarche de Moscou n'est pas de la fête. Et vous entendez peut-être derrière moi, scène étonnante, l'appel du muezzin, alors que cette célébration œcuménique catholique orthodoxe va commencer.
Oui, on entend bien ça, Bruno Duvic. C'est un geste d'apaisement, car ça correspond au style de ce pape qui s'affirme lors de ce voyage que vous suivez pour France Inter.
À ce stade de son pontificat, François avait déjà prononcé plusieurs phrases chocs, comme celle sur les fidèles homosexuels, pas Léon, ce qui ne l'empêche pas de dire les choses, comme hier sur la liberté de culte nécessaire pour les chrétiens en Turquie devant Erdogan. Pape modeste, comme si l'Église devait repartir de la base pour reconquérir les fidèles. Ce matin, à la cathédrale d'Istanbul, il a fait un éloge de la petitesse. Pape relativement jeune, et cela change tout pour l'image de l'Église en voyage. Fini les scènes gênantes de François qui descendait de l'avion sur un élévateur. Hier, Léon, 70 ans, semblait plus en forme qu'Erdogan, à peine plus âgé que lui. Pape américain, enfin, qui n'utilise quasiment que l'anglais depuis le début de ce voyage. Il n'y aura pas de discours en italien. Hier, parmi les cadeaux qu'il a reçus pour son premier voyage, une batte de baseball.
Ça change de tonalité, effectivement. Merci Bruno Duvic, en direct d'Iznik en Turquie pour France Inter. Et ce premier déplacement de Léon XIV ne fera pas la une de la presse italienne ces prochaines heures, puisque les journalistes du pays sont en grève aujourd'hui pour réclamer une renégociation de leur convention collective. Et un appel à la grève général a été lancé en Italie par les principaux syndicats pour protester contre les restrictions budgétaires décidées par le gouvernement de Giorgia Meloni. Des affiches noires qui recouvrent les vitrines aujourd'hui et des promotions alléchantes que vous avez sans doute reçues par mail ou par SMS. C'est le Black Friday, aujourd'hui le Vendredi Noir, et c'est désormais le début de la frénésie des achats de Noël. Mais c'est aussi une opération qui a ses détracteurs, accusés de promouvoir la surconsommation, notamment de produits bas de gamme importés du bout du monde. Alors pour lutter contre ce phénomène, 200 marques françaises ont lancé les jours tricolores, des réductions sur des produits fabriqués en France. Alors, est-ce que ça marche ? Reportage de Louise Adéloïde Boinard à la boutique L'Appartement Français à Paris.
Le Black Friday, c'est non pour Patrick. Le retraité n'achète plus que des produits français en matière naturelle.
Quand on teste deux types de produits, comme je l'ai fait, soit des produits que je n'aimerais pas, des sous-vêtements faits masculins, et bien on voit un peu la différence.
Géraldine admire des sacs en cuir dormant. Elle boycotte aussi le Black Friday, mais peut se laisser tenter par des réductions.
Si on peut jumeler l'intérêt d'un cadeau de Noël bien choisi avec une promotion, c'est bienvenu.
Pour Mathieu, les bras chargés de cadeaux de Noël, acheter français, même sans promotion, ne veut pas forcément dire se ruiner.
Parfois, on a l'impression que parce que c'est Made in France, il faut forcément que ce soit cher. Mais là, dans cette boutique, il y a différentes marques. Il y en a certaines, il n'y a pas une différence de prix énorme non plus par rapport à d'autres marques prêtes à porter, disons, de qualité équivalente.
Par exemple, il y a des suites à 40 euros dans la boutique. Émilie Auvray a cofondé Les Jours Tricolores il y a 5 ans.
Il y a un ancien système de surconsommation complètement déraisonné, complètement inconsciente, qui est doucement en train de changer. Et il y a ce système de consommation responsable qui prend de plus en plus de place. Et bien sûr qu'on ne peut pas tout changer en quelques jours, mais en fait, on doit essayer.
Pour l'instant, en France, il n'existe que 25 boutiques regroupant plusieurs marques exclusivement fabriquées dans notre pays.
Voilà pour ce reportage de Louise Adélaïde Boinard à la boutique L'Appartement Français. Et puis si je vous parle de Moritz Cornelis Escher, ça ne vous dit sans doute rien, mais vous avez certainement déjà vu ses œuvres, ses illusions d'optique, des escaliers impossibles à emprunter, des cascades à l'envers, ces images qui défient la compréhension et qui sont reproduites dans les albums jeunesse, dans les manuels de maths. L'artiste néerlandais M.C. Escher, c'est son surnom, est au cœur d'une exposition à découvrir à la Monnaie de Paris. Et c'est Julien Baldacchino qui nous emmène.
Avant d'imaginer ces perspectives impossibles, M.C. Escher a un déclic en observant le carrelage du célèbre palais de l'Alhambra à Grenade dans les années 1920. Il se lance alors dans ses premiers enchevêtrements de figures à la géométrie parfaite, mais pas sans difficulté. Jean-Hubert Martin est le commissaire de l'exposition.
La précision dans le détail, où il va du macrocosme au microcosme, dans la même image, c'est insensé. On se demande même comment il arrive à le faire. Et il le dit lui-même pour certaines des gravures. Il prend un temps très très long et il faut beaucoup d'essais pour y arriver. Ça se fait pas dans trois traits de crayon en quelques heures. Hein.
Avec ses illusions d'optique, M.C. Escher est souvent vu comme l'artiste le plus matheux du XXe siècle. Mais c'est une idée reçue. Aucun calcul ne précédait à ses œuvres.
Il a rencontré des mathématiciens, en particulier à partir des années 50, qui ont été fascinés par ce qu'il faisait, parce qu'ils trouvaient là des illustrations de formules ou d'hypothèses qu'ils n'arrivaient pas à rendre d'une manière physique. Mais il a toujours travaillé jusqu'à la fin de manière intuitive. Il est toujours resté totalement artiste et il le revendiquait.
Tout au long de l'expo, des petits espaces immersifs permettent d'expérimenter soi-même les illusions imaginées par Escher et de se plonger encore mieux dans son univers déroutant et fascinant.
Les illusions d'optique de M.C. Escher, c'est donc une exposition à découvrir jusqu'au 1er mars. Et c'est à la Monnaie de Paris, 13h27 sur France Inter. Restez avec nous dans les prochaines minutes, la météo de votre week-end. Ce sera avec Patricia Charbonnier et puis on poussera la porte du musée d'art de Bayonne qui vient de rouvrir après 14 ans de travaux et qui présente notamment de nombreuses œuvres déposées par le musée du Louvre. On va parler de ce partenariat avec nos deux invités à Bayonne et à Paris. Et avec vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. À suivre également le dernier épisode de notre feuilleton dans la fabrique des clarinettes, dans cette entreprise française qui est choisie par les musiciens du monde entier. Et c'est justement un grand nom de la musique classique qui vient tester les clarinettes dans l'épisode du jour signé Ajram Mohama. 13h50, c'est la France et c'est la France des cimes aujourd'hui avec vous. Virginie Troussier, bonjour.
Bonjour Céline.
On va parler ensemble de l'organisation des JO d'hiver de 2030 dans les Alpes.
Les JO d'hiver 2030 ont été engagés sans consultation des citoyens alpins et l'ONU demande désormais à la France pourquoi aucun débat public n'a eu lieu alors que le projet transforme profondément les Alpes.
Les précisions à suivre avec vous Virginie et puis j'espère que vous avez apprécié comme nous la carte blanche de Stéphane Escher. Depuis le début de la semaine, le chanteur suisse partage ses coups de cœur musicaux et puis les revisite aussi à sa façon. Et pour ce dernier jour de la semaine, c'est son nouveau titre Poussière d'or qu'il vient interpréter.
C'est aussi le titre de tout un album que je voulais qu'il se passe dehors. Je ne sais plus où est mon horizon et peut-être vous sentez ça aussi.
Voilà les questions en musique de Stéphane Escher. Ça nous emmènera en douceur jusqu'à 14h. À tout de suite.
Ce samedi, France Inter vous invite à découvrir le monde à travers les yeux de la science au Grand Palais à Paris.
Christophe Galfard.
À 11h, un Big Bang en direct et en public pour explorer ce que les mathématiques peuvent pour nous. Et à 15h30, nous nous demanderons si les ovnis sont réellement un mystère.
Big Bang.
C'est ce samedi à 11h et à 15h30 au Grand Palais à Paris.
Réservation sur maisondelaradioetdelamusique.fr.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
La météo tout de suite.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Et c'est avec vous Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Et cet après-midi, le temps va rester gris et humide.
Oui, sur une large moitié nord, pas d'amélioration avec ces nouvelles pluies qui circulent entre les frontières du nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire, jusqu'au Massif central et jusqu'au Poitou-Charente. Elles sont plutôt faibles en général, mais elles seront plus marquées cet après-midi sur la Vendée. Ça reste sec près des frontières de l'Est et dans le Sud-Ouest, mais là, le ciel va devenir de plus en plus nuageux dans l'après-midi. C'est lumineux dans le quart Sud-Est, mais on a toujours un petit peu de mistral et de tramontane. Et puis quand même, on devrait retrouver un temps plus clément, quelques éclaircies près des côtes de la Manche.
Et le redoux se poursuit ?
Par l'ouest du pays. On va reparler de douceur pour aujourd'hui, ouais. Sur l'ouest du pays, même pour ce week-end. On repasse au-dessus des normales de saison. Exemple, cet après-midi, on attend 12 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Brest, 15 degrés à Nantes comme à Marseille, 17 degrés de maximum à Perpignan. C'est encore un petit peu juste dans le nord et l'est, avec 7 degrés cet après-midi à Strasbourg, 10 degrés à Lille et 11 degrés à Paris.
Et ben voilà pour toutes les prévisions. Merci beaucoup, Patricia Charbonnier.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
On le surnomme le petit Louvre du Pays Basque avec ses œuvres de Géricault, Ingres, Rembrandt ou Goya, mises en valeur dans une scénographie complètement repensée. Le musée Bonnat-Elleve vient de rouvrir ses portes à Bayonne après 14 années de travaux et de restauration du bâtiment. Réouverture suivie, accompagnée par son grand frère parisien, on va le dire ainsi, avec l'idée de renforcer les liens entre les musées un peu partout sur le territoire. Et on va en parler avec nos invités, avec vous Dominique de Fonréau, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes conservateur. Conservatrice générale du patrimoine, commissaire d'exposition et chargée de mission auprès de la présidence du Louvre. Et bonjour Hélène Ferron.
Bonjour.
En direct avec nous depuis les locaux de nos confrères d'ici Pays Basque. Vous êtes la directrice des collections du musée Bonnat-Elleve. Parlons de cette réouverture. D'abord, est-ce que le public était hier au rendez-vous ?
Alors oui, effectivement, il était au rendez-vous avec une première journée très ensoleillée au cours de laquelle nous avons accueilli plus de 1000 visiteurs et visiteuses et donc on peut parler de franc succès.
Et surtout des visiteurs locaux, on imagine qu'il n'y a pas encore de touristes vu la basse saison. Ils avaient peut-être envie d'ailleurs particulièrement de découvrir, redécouvrir le musée dans leur ville.
Oui, exactement. Effectivement, on est sur la basse saison ici, donc c'était d'abord des habitants et habitantes du territoire et de Bayonne, avec un premier visiteur bayonnais hier matin. Et on ressent beaucoup de joie et d'émotion chez ces personnes qui, soit ont connu le musée avant sa fermeture et donc sont très émus de retrouver certains éléments qu'ils reconnaissent, ou bien des nouveaux qui découvrent avec beaucoup de bonheur.
Racontez-nous d'un mot, Hélène Ferron, pourquoi il avait fermé ce musée ? Pourquoi la restauration était si longue ?
Alors, ce musée ferme il y a 14 ans, suite à une tempête au cours de laquelle la verrière historique du patio central menace de s'effondrer. Et la ville est dans l'obligation du coup de fermer l'établissement pour engager d'importants travaux de rénovation qui se sont écoulés sur les 14 dernières années, effectivement.
Alors ça a été l'occasion, ces longs travaux, de repenser aussi tout votre musée. J'ai compris, parce que je ne l'ai pas encore visité, ce musée, que la visite se fait, Hélène Ferron, par thématique et pas forcément par genre ou par ordre chronologique.
Voilà, exactement. On a souhaité proposer aux visiteurs et visiteuses un musée qui soit très accessible et qui sorte un peu d'un accrochage parfois plus thématique par école ou chronologique. Et donc, on aborde le parcours de manière thématique. On ouvre certaines grandes questions, telles que la thématique du corps, par exemple, et la représentation de soi, la thématique du sacré ou bien du pouvoir. Et on raccroche tout doucement ensuite avec la chronologie.
Dominique de Fonréau, vous avez participé justement à la réflexion sur cette scénographie.
Alors j'ai eu la grande chance d'être associée avec d'autres personnes du Louvre à ce projet, ce qui a été une joie très très profonde en fait d'être associée à ce projet-là, qui est absolument splendide. C'est-à-dire que ça vaut le voyage, hein, morte saison saison ou haute saison, c'est vraiment formidable. Comme le soulignait Hélène Ferron, c'est la rencontre avec une collection extraordinaire, parce que le musée Bonnat-Hélieu, c'est le lieu de la générosité. Le musée est fondé grâce à la formidable donation de Léon Bonnat, hein, donc qui rend grâce à sa ville, hein, qui donne aux musées nationaux, mais pour être exposé à Bayonne. Et ensuite, il y a beaucoup de donations à suivre, celle d'Antonin Persona, l'ami des impressionnistes, celle de la fille du peintre Helleu, donc beaucoup de donations qui sont présentes. Et ça fait une collection incroyable, incroyable par sa richesse, sa diversité, mais aussi sa singularité.
On va reparler des collections, bien sûr, mais je voudrais d'un mot qu'on reste sur la manière dont vous avez choisi de les présenter, justement, aux visiteurs. Hélène Ferron, est-ce qu'il y avait aussi l'idée, quelque part, de répondre aux nouveaux usages des visiteurs ?
Oui, exactement. On a souhaité faire un musée qui soit à hauteur de regard, justement, et qui répondent effectivement aux usages des visiteurs et visiteuses. Et par exemple, donc, nous accrochons les sculptures assez basses, les peintures également assez basses, et les visiteurs et visiteuses sont invités à déambuler au sein des œuvres. Par exemple, on a une première grande galerie qui ouvre le parcours, qu'on intitule la galerie des corps, au sein de laquelle chacun, chacune peut véritablement faire la rencontre des œuvres. On sort de toute hiérarchie, on mélange toutes les typologies, on mélange également toutes les époques, les écoles. Et donc, vous avez par exemple une sculpture gréco-romaine qui dialogue avec une peinture du 19e siècle. Et donc, la découverte se fait de manière intuitive plutôt qu'intellectuelle. Il n'y a pas besoin de prérequis culturels ou en histoire de l'art pour rencontrer les œuvres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité conserver tout au long du parcours. Vous avez également une très grande salle au deuxième étage qui est consacrée à la découverte du grand 19e siècle, où l'accrochage est dit à touche-touche, donc comme au 19e siècle. Et finalement, en fait, cet accrochage de peinture fait écho à la grille qu'on peut avoir en tête, grille Instagram, grille Netflix, par exemple. Et ça, ça parle aux gens aujourd'hui.
Les cadres qui se touchent et qui rappellent les réseaux sociaux. Oui. Dominique de Fonréau, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion comme ça de réinventer un musée quasiment du début. Est-ce que ça permet aussi de re-réfléchir le rapport à l'œuvre ?
Bien sûr. C'est exactement ce que soulignait Hélène, et tout à fait important. C'est-à-dire que ça permet de réfléchir le rapport à l'œuvre, ça permet aussi de créer des dialogues différents, ce qui est absolument passionnant. Et ce qui a été fait à Bayonne, hein, c'est que toutes les salles ont leurs attractions. Pour parler un peu comme le disait Eisenstein pour le cinéma, des attractions très fortes qui dialoguent entre elles, qui surgissent, c'est-à-dire que l'émotion naît de l'accrochage, mais aussi de la rencontre entre les œuvres. Donc c'est une question aussi, ce qui est formidable, c'est que rénover un musée, c'est toujours se questionner sur qu'est-ce que c'est un musée aujourd'hui. Et un musée aujourd'hui, c'est évidemment un lieu où on peut apprendre des choses, mais c'est aussi un lieu de vie, c'est aussi et surtout un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'échange. Et ce qui est formidable, comme on est à Bayonne, c'est que c'est un lieu d'échange aussi linguistique, parce qu'à Bayonne, on a le français, mais on a aussi le basque, on a aussi le gascon, et tout ça avoisine assez formidablement bien, avec notamment aussi, Hélène ne le disait pas, mais ça me semble être un point très important, beaucoup de cartels famille. J'aime mieux dire famille qu'enfant, parce qu'en fait c'est bien aussi pour les adultes, à vrai dire, pour être tout à fait honnête. Et certains de ces cartels famille ont été écrits par les enfants des écoles de Bayonne. Donc c'est vraiment toute une question de renouveau. C'est aussi sa question de se dire qu'est-ce qui s'établit entre les œuvres ? Est-ce que ce qui s'établit entre les œuvres, c'est une question de période, c'est une question d'émotion, c'est une question d'iconographie ? Et au fil des différentes salles, ces différents points ont été tirés, pas toujours les mêmes, évidemment, parce que ça n'aurait pas de sens, évidemment, il ne faut pas être systématique, hein, mais en essayant de toujours renouveler le regard et la déambulation.
Mais est-ce que le risque de vouloir justement susciter l'émotion, d'aller chercher des publics qui sont peut-être moins avertis, c'est pas d'en oublier la compréhension de ceux qui voudraient qu'on comprenne des mouvements picturaux, d'aller vraiment au fond des œuvres et de leur histoire?
Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, tout ça n'est pas antagonisme, heureusement. Enfin, je veux dire, c'est fait de manière aussi où des éléments forts, des ensembles forts sont réunis. Les deux très beaux, par exemple, tableaux du Gréco, hein, parce que le musée Bonnat a la chance d'avoir ce type d'œuvres qui sont réunies. La très belle collection aussi de peintures du grand siècle, hein, donc qui sont aussi réunies. les ensembles d'esquisses de Rubens. Donc, on ne casse pas ces éléments-là. Simplement, on les met en perspective autrement. On donne, grâce à l'ensemble de l'appareil, évidemment, médiation, cartel, etc., des informations. Mais en même temps, on laisse le visiteur déambuler comme il en a envie. Et moi, j'étais là pour l'inauguration, où il y avait un public plutôt d'habitués de musée. Ils étaient éblouis. Et vraiment éblouis, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, c'est magnifique !» Pour parler de quelque chose, par exemple, qui m'est cher, on a pu faire une réunion de quelque chose qui est presque impossible à faire dans les autres musées français, c'est-à-dire d'avoir, dans la même salle, Goya, Ingres, les peintres anglais de la même époque, comme Lawrence ou Reynolds. C'est magique. Mmh. Et ça fait des contrepoints qui sont des contrepoints à la fois saisissants du point de vue du regard et de l'émotion, et très justes du point de vue de la connaissance.
Comment on choisit les œuvres à mettre en valeur, Hélène Ferron, quand on a justement un fonds aussi important?
On a la chance d'avoir effectivement des collections assez remarquables avec quelques trésors. Et donc forcément, on s'appuie sur les grands noms de l'histoire de l'art, mais pas uniquement. On a des œuvres qui sont très belles, qui sont parfois d'anonymes. Et donc on s'appuie véritablement sur la matérialité des œuvres aussi. Et on laisse certains apparentements et entrechoquements se faire. Donc on les choisit.
On les choisit et on se dit qu'un jour on pourra changer de choix, enfin revoir son choix et les faire dialoguer autrement, ou si finalement c'est pas gravé dans le marbre.
Complètement. On souhaite être un musée qui se renouvelle en permanence et on a la chance pour ça, justement, dans nos collections, on a un très beau cabinet des dessins et le dessin ne peut pas être exposé en permanence. Tous les 3 mois, les dessins qui ont été exposés doivent être mis au noir pour ne pas s'abîmer à cause de la lumière. Et ce renouvellement, il se fait aussi grâce à ce cabinet d'art graphique.
Est-ce qu'on s'inquiète pour la sécurité des œuvres, Hélène Ferron, dans le contexte évidemment que l'on connaît ?
Alors, le contexte, évidemment, nous invite à être vigilants et vigilantes sur le sujet. C'est une question qui a été anticipée très tôt, dès le début de la rénovation, sur lequel on a un point d'alerte depuis quelques semaines, mais tout avait été parfaitement anticipé. Tous les tableaux sont sécurisés, les vitrines également, donc nous restons bien entendu vigilants.
Alors, une partie des œuvres qui sont présentées dans ce musée Bonnat-Helleux à Bayonne, Dominique de Fonréau, viennent du musée du Louvre, ils ont été déposés, c'est comme ça qu'on dit ?
Alors en fait, l'histoire est un peu compliquée, enfin, elle est formidable. Hein. C'est vraiment l'histoire, comme on l'évoquait tout à l'heure, de la générosité. Léon Bonnat, donc, qui est un très grand peintre du 19e siècle, et très grand collectionneur, très fin collectionneur, donne sa collection aux musées nationaux pour être présenté à Bayonne, tout de suite. Hein. C'est vraiment l'idée. Donc il rend grâce à sa ville natale. Du coup, les œuvres sont déposées à Bayonne, mais elles sont sur les inventaires des musées nationaux, donc du Louvre. Et c'est ce qui a aussi permis ce partenariat qui existe depuis longtemps, parce qu'évidemment, depuis longtemps, il y a un lien particulier entre le musée Bonnat et entre le musée du Louvre. Et le souhait de Laurence Descartes, quand elle a pris son poste, ça a été finalement d'aller au-delà de ces enjeux qui sont des enjeux statutaires importants et fondamentaux, hein, sur le récollement, sur le traitement des œuvres, etc., pour finalement aussi créer un partenariat et accompagner cette rénovation et cette ouverture du musée Bonnat-Helleux. Et ça a été, je dois dire, un partenariat vraiment très riche, parce que ça a été un échange constant avec les équipes, où il y a eu vraiment un travail partagé de beaucoup de personnes, et au Louvre et bien sûr aussi à Bayonne, hein, au musée Bonnat-Helleux, hein, une forte implication de l'ensemble des équipes aussi municipales et culturelles de la ville, et une mobilisation aussi, et ça c'est très intéressant, de l'ensemble de la, comment dirais-je, du terreau de la ville de Bayonne, parce que Bayonne évidemment, c'est vrai, c'est le musée et on en est très heureux, et encore une fois, ça vaut le voyage, mais ce sont aussi les fêtes, ce sont aussi le club des avirons bayonnais, c'est le chocolat, c'est les mouchous, enfin tout ça, tous ces éléments-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces gens-là ont été mobilisés aussi dans cette réflexion sur la réouverture du musée.
Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres partenariats de ce genre ? Je vous soumets, Dominique de Fonréau, cette question de Charles Henry. Est-ce que les réserves du musée du Louvre pourraient remplir des musées en région plutôt que de prendre la poussière dans le noir ?
Alors, bon, ça, c'est la grande question des réserves. Il y a dans les musées, il n'y a pas de réserves de... Ça n'existe pas, Dieu merci, des œuvres d'art qui ne sont pas présentées, qui prennent la poussière. Les réserves sont des lieux de travail. Donc ça, je vous rassure, Charles-Henri, et je rassure nos auditeurs. En revanche, des partenariats, nous en avons. Et vous le savez, on a ce partenariat un peu particulier et très fort avec le Louvre Lens, hein, qui est un projet formidable et qui, déjà depuis 12 ans, il y a des partenariats avec le musée d'Avignon, avec aussi d'autres lieux comme au musée Fabre à Montpellier. Donc des partenariats, il y en a. Celui-là était vraiment exceptionnel parce que, grâce à la générosité de Bonnat, la collection de Bonnat, c'est le plus important dépôt du Louvre, et avec vraiment une véritable histoire très très profonde sur l'histoire de la peinture.
Hélène Ferron, on parlait à l'instant justement de la manière dont le musée s'inscrit dans la culture et la tradition du Pays Basque. Est-ce que l'idée, c'est aussi de faire dialoguer le musée avec d'autres institutions, avec des écoles ou d'autres lieux culturels par exemple ?
Oui, c'est une vraie volonté pour les équipes du musée et pour le musée. Et Dominique en parlait tout à l'heure, par exemple, pour l'écriture des cartels du parcours famille, le musée et le service des publics notamment a travaillé avec des écoles du territoire, que ce soit des écoles françaises ou bien des écoles où l'enseignement est dispensé en basque. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre au cours des années futures et qu'on souhaite même renforcer de la même manière pour ce grand week-end de réouverture que l'on souhaite. Festif. On travaille avec des collectifs du territoire pour animer les prochains jours avec des concerts, du dessin dans les salles par exemple.
Qu'est-ce qu'il y a prévu ce week-end, en un mot, Hélène Ferron ?
Alors, un DJ set ce soir à partir de 18h, des concerts demain, de la déclamation de poèmes également, les étudiants de l'école d'art qui nous feront de la médiation postée dans les salles. Effectivement, un week-end particulièrement festif, ouvert à toutes et tous, puisque l'entrée est gratuite jusqu'à dimanche soir.
Bon, on va vous laisser préparer tout cela, parce que c'est beaucoup de travail. On vous souhaite un très bon week-end festif, et bonne continuation à ce musée Bonnat et Le. Merci beaucoup Hélène Ferron, vous êtes la directrice des collections, d'avoir été en direct avec nous depuis les locaux de nos confrères d'ici Pays Basque. Et merci à vous Dominique de Fonréau, conservatrice générale du patrimoine, d'être venue dans le studio du 13-14. Tout de suite le feuilleton. Vous savez que c'est la fabrication d'une clarinette que nous suivons depuis le début de la semaine. Ajra Mohamad nous emmène dans l'entreprise Buffet Crampon dans les Yvelines. Leader mondial du secteur depuis 200 ans, le groupe fabrique les clarinettes utilisées par les plus grands musiciens du monde, dont le soliste international Pierre Génisson, qui vient lui-même tester les instruments sur place.
Voilà, ça c'était le début de l'ère de Helluce van Lestele de Tosca, de Puccini.
Et donc là, cette clarinette, vous l'avez en main, c'est la vôtre ?
Celle-là, c'est la mienne, mais toutes celles qui sont autour, en fait, ce sont soit des prototypes, soit des instruments que j'essaye pour les magasins, à la revente, en fait. Donc, dans ce studio, on travaille à la fois à l'évolution, quelle sera la clarinette de 2026, 27, 28, et aussi également on fait de la production, on travaille sur les modèles qui sortent de l'usine et pour vérifier qu'ils sont parfaits, cohérents avec les standards de qualité. Moi je suis Pierre Génisson, je suis clarinettiste soliste, musicien classique, mais je fais aussi un peu de jazz, je vais dans d'autres contrées, voilà, mais principalement soliste classique. Je passe régulièrement depuis que j'ai 16 ans. Je viens chez Buffet Crampon, je suis un enfant de la maison, si je puis dire. J'étais biberonné à cette marque qui m'a fait rêver depuis que je suis tout petit. Je suis venu avec mon professeur dans ce lieu, dans ce studio ici. Et depuis, c'est toujours avec autant de bonheur que je viens.
Une clarinette Buffet Crampon, c'est vraiment la référence ?
Il n'y a pas mieux, tout simplement. Buffet Crampon, c'est une marque avec une couleur, un son, une âme. On n'est jamais à la perfection, mais on approche de la perfection, comme nulle part ailleurs.
Je reviens sur la couleur.
Oui.
Vous lui donnez quelle couleur à cette clarinette ?
Doré. Doré, parce que au-delà du côté un peu bijou et joyau, le doré c'est quelque chose de chaud, de rassurant. La lumière c'est quelque chose dont on a évidemment tous besoin, et ce besoin, cette recherche de lumière, je le trouve dans le son de Buffet Crampon, dans la rondeur et dans le timbre. Je suis fier de représenter une tradition, une école, parce que c'est pas qu'un savoir-faire, c'est aussi toute une histoire. de la culture de la musique, de contribuer à être un étendard de ce patrimoine et de le faire vivre et de le faire évoluer, bah, c'est évidemment passionnant. Et à notre niveau, on essaie de contribuer en fait, à faire évoluer bien sûr les choses. Je suis allé de nombreuses fois évidemment dans l'usine, j'ai pu les côtoyer, j'ai même fait un stage ouvrier d'ailleurs pour... Aujourd'hui, je suis essayeur, mais pour être essayeur, j'ai passé quelques jours dans l'usine pour essayer de comprendre en fait, le quotidien de qu'est-ce qu'était le travail d'un artisan de la clarinette. Donc évidemment, je me sens totalement à la maison.
Votre première clarinette, vous l'avez eue à quel âge ?
Alors, pour démarrer la clarinette, c'est tout simple, il faut avoir des dents. Donc, des dents définitives, donc j'ai commencé à 9 ans. Et je suis, la première fois que je suis arrivé dans ce studio-là, j'avais 14 ou 15 ans, effectivement. Et j'étais tout petit, j'étais totalement émerveillé de voir à la fois ce grand bazar organisé et tout, enfin, chaque petit bout de métal ici a une histoire, a un vécu, a une raison d'être. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'avec du bois et du feu et du métal, on arrive à faire quelque chose d'artistique.
Fabrique des clarinettes, feuilleton signé. Cette semaine, Ajra Mohammad avec Vincent Godard à la réalisation.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France. C'est la France des cimes et des océans. Le vendredi avec vous, Virginie Troussier. Et on part à la montagne aujourd'hui, et plus précisément dans les Alpes, puisque l'ONU a examiné la semaine dernière des requêtes inédites visant l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030.
À Genève, la question posée à la France était d'une simplicité tranchante. Comment a-t-on pu engager les Alpes pour les JO d'hiver 2030 sans entendre la voix de ceux qui y vivent ? Un collectif de citoyens, d'élus et d'associations a saisi le comité d'Aarhus pour pointer un déni de démocratie environnementale. Aucun débat public n'a eu lieu. L'État français promettait une consultation plus tard pour chaque infrastructure et par voie électronique. Mais la convention d'Aarhus dit exactement l'inverse. Quand un projet a un impact majeur sur l'environnement, le public doit être consulté dès le début pour que toutes les options restent possibles, y compris celle de ne pas faire aboutir le projet. Les requêtes ont été jugées recevable, c'est un vrai signal d'alarme pour l'État qui devra s'expliquer sur l'absence de concertation citoyenne.
Alors si ce signal, Virginie, résonne autant, c'est qu'il touche le visage même des Alpes. Hein.
Et oui, avec leur âge canonique, on pourrait croire les Alpes éternelles. Pourtant, elles s'abîment. Pollution, érosion, fonte des glaciers, développement parfois mal maîtrisé. Comparer ces prochains Jeux à Paris 2024 repose sur une fausse équivalence. Les Alpes encaissent de plein fouet le réchauffement climatique. En 50 ans, l'hiver a reculé d'un mois. Le modèle du tout-tourisme, avec la multiplication des routes, des infrastructures et des canons à neige sur lequel s'adosse l'organisation des JO, appartient désormais au passé. Dans les vallées, les habitants engagent d'autres réflexions sur l'accès à l'eau, la diversification économique et sur ce lien intime qui les relie à leur milieu.
Alors est-ce qu'on pourrait imaginer des Jeux plus sobres, mieux adaptés à ces territoires ?
Eh bien Céline, prenons l'exemple de Cortina d'Ampezzo en Italie qui accueillera les prochains JO l'année prochaine. Plus de 500 mélèzes, pourtant protégés, ont été abattus pour tracer une piste de bobsleigh. 160 ans de croissance rasée en quelques jours. Ces arbres formaient pourtant un rempart vivant contre l'érosion, offraient refuge aux animaux et portaient la mémoire d'une vallée. Le collectif le répète, des jeux durables n'existent pas. Malgré les promesses de sobriété, l'empreinte carbone de ces compétitions ne cesse de s'alourdir. Ce sera toujours destructeur pour des milieux fragilisés.
Et ça révèle finalement une question de fond. Comment habiter ces paysages ?
En effet, la question portée par le collectif JOP 2030 est claire. Dans un contexte de crise climatique, peut-on encore décider de maintenir des événements qui transforment en profondeur les territoires ? Alors que la procédure onusienne est en cours, le projet de loi olympique qui prévoit des dérogations en urbanisme, logement ou sécurité a été avancé au 15 décembre et devrait rendre la consultation citoyenne plus accessible, a affirmé la ministre des Sports. Mais pour la juriste Delphine Lara, fondatrice du collectif, les parlementaires peuvent reprendre la main. Ces Jeux ne sont pas une obligation extérieure, mais bel et bien un choix. Car les Alpes ne sont pas un décor, c'est un milieu vivant, mouvant, un tissu de présence. Sans en faire un sanctuaire, le massif nous avertit, il ne peut pas tout accueillir. Et j'aimerais conclure avec une pensée de l'écrivain Massimo Calvi, extraite de son beau roman « L'homme qui regardait la montagne ». Rien ne relie les esprits et unit les âmes comme respirer ensemble dans un même pas.
Quelle jolie citation.
Merci beaucoup Virginie Troussier de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec Stéphane Escher, avec nous depuis le début de la semaine dans le 13-14. Le chanteur suisse a revisité des grands classiques cette semaine, de Charles Bois à Bob Dylan. Et pour ce dernier épisode de sa carte blanche, eh bien c'est un titre bien à lui qu'il a choisi.
Bonjour, c'est Stéphane Escher. Oui, encore moi. Je vous parle d'une chanson que moi, je chante. Que moi, j'écris avec mon ami Philippe Tian. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant mes yeux.
L'espoir dans le matin bleu, soudain, vacille et chance.
C'est aussi le titre de tout un album que je voulais qu'il se passe dehors. Le disque parle de... On va chercher un horizon. On ne sait plus, au moins moi, je ne sais plus vraiment où est le haut et le bas. Comment la Terre tourne? Est-ce qu'elle est vraiment ronde? Il y a des gens qui disent « elle est plate ». Je ne sais plus où est mon horizon et peut-être vous sentez ça aussi. Et d'aller dehors et faire des promenades, de le chercher, c'est ça que j'essaie avec ce disque.
Tout ira de mieux en mieux. Tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve. Quel doux miel à nos lèvres.
Poussière d'or, je le vois, le horizon est... Les journées là, ils sont parfaits parce qu'il reste peut-être quelques feuilles aux arbres dorés. Il y a un vent qui se lève et qui les arrache. Et tout à coup, le ciel s'ouvre et il fait un peu bleu. C'est une combinaison de couleurs et de violence et de beauté qui me va très bien. Et à Philippe Tian aussi. Et Roman et moi, on va vous jouer une version un peu oh là là de Poussière d'or. Merci pour cette semaine et une autre fois, j'espère.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin blême, soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir. Nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Aube froid et vent mauvais pourraient nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Le chemin tourne sans fin. De quoi sera un feu demain? Sinon de goudron amer, sinon de miroir de désert. Quel choix de garder la foi? Quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur. Poussière d'or
Poussière d'or. Le nouveau titre et le nouvel album de Stéphane Escher pour clore cette carte blanche réalisée par Anaïs Reynard. Retrouvez tous les épisodes et les vidéos sur notre site franceinter.fr. Un mot pour remercier celles et ceux qui ont fabriqué le 13-14 cette semaine. À la rédaction en chef, Sonia Princé, Flore Catala, Corinne Boulou et Lionel Thompson, assistés de Nicolas Saada, Swad Bellani, Richard Rachid Zourdani et Sylvain Lesage. À la technique cette semaine, Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, à la programmation Camille Poujalaguier et Cyrine Benyounès. Merci également aux standardistes de France Inter.